C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février et nous allons parler des traumatismes intergénérationnels.
Ils se transmettent de génération en génération, les traumatismes intergénérationnels ou transgénérationnels peuvent être causés par un large éventail de circonstances ou d'événements, comme les guerres ou les violences intrafamiliales, mais quels sont les mécanismes de transmission de ces traumatismes? Comment se manifestent-ils chez les victimes et comment briser le cycle de la transmission?
Pour en parler, nous serons en compagnie de Bérangère Guillery, neuropsychologue et membre de l'unité de recherche de l'INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine à l'Université de Caen. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec une étude sur les PFAS qui révèle de nouveaux effets néfastes sur notre santé.
Ces substances chimiques quasiment indestructibles ont déjà été pointées du doigt à de nombreuses reprises pour leur impact sur notre organisme, mais cette fois c'est plus particulièrement la santé des femmes enceintes qui a été étudiée par des chercheurs de l'INSERM. L'exposition de ces polluants éternels aurait un impact sur leur placenta et pourrait donc compromettre la santé du fœtus.
Mais comment en sont-ils venus à une telle hypothèse ?
En suivant de 2014 à 2017 pas moins de 367 femmes enceintes ayant des traces de polluants éternels dans leur sang, et au cours de ces trois années, il a été observé que leur placenta pesait moins lourd et présentait des signes inhabituels de vieillissement et d'altération. Le problème, c'est que cela pourrait entraîner une réduction des apports en nutriments et en oxygène pour les bébés. À l'avenir, l'équipe scientifique souhaite reproduire cette étude à plus grande échelle pour confirmer ses résultats. La semaine dernière, Microsoft a annoncé la mise au point d'un nouveau processeur quantique Majorana 1.
C'est une véritable révolution dans le milieu. Ce processeur repose sur un matériau innovant capable de créer un nouvel état de la matière, ni solide, ni liquide, ni gazeux. Une percée qui viendrait résoudre un problème qui bloque les chercheurs depuis des années. Les qubits, éléments fondamentaux de l'informatique quantique, perdent trop d'informations pour réaliser des calculs fiables. Ce nouvel état dit topologique permettrait de les stabiliser et de les rendre enfin utilisables.
Mais pour l'instant, certains chercheurs restent prudents.
Et oui, l'article publié par les scientifiques de Microsoft manque de preuves concluantes sur l'existence de ces qubits topologiques. Or, ce n'est pas la première fois qu'une découverte similaire est annoncée pour finalement être réfutée quelques semaines plus tard. L'entreprise américaine semble pourtant plutôt confiante. Elle affirme être en mesure de commercialiser des ordinateurs quantiques d'ici quelques années. Le 26 février, la NASA va installer la 4G sur la Lune.
Cette mission prévue depuis 5 ans est baptisée IM-2 et appartient au programme Artemis, l'objectif ramener l'homme sur la Lune et y installer une base permanente, d'où l'importance d'installer un réseau internet performant exactement comme celui qu'on utilise tous les jours sur Terre. Une mini-station au relais 4G conçue par Nokia et alimentée par des panneaux solaires et deux engins motorisés vont donc être envoyés sur la Lune pour tester la communication avec la station de base.
Et si ce test est une réussite, un vaste réseau 4G pourrait être déployé sur le site de la future base lunaire.
Exactement, ce qui permettra de piloter des équipements à distance ou encore de récupérer des informations des capteurs. Et pour ce qui est du retour de l'homme sur la Lune, c'est prévu pour 2028 au plus tôt, tandis que la construction de la fameuse base permanente devrait commencer en 2030. Le ministre égyptien des Antiquités a annoncé mercredi dernier la découverte d'une tombe royale à Louxor, au sud de l'Égypte.
Effectivement, il s'agit de la tombe du pharaon Thoutmôsis II, qui a régné sur le pays il y a plus de 3500 ans. C'est une découverte archéologique de taille puisqu'il s'agit de la première tombe royale mise au jour dans la vallée des rois depuis celle de Toutankhamon il y a 103 ans.
Mais comment les archéologues ont-ils pu identifier à qui appartenait cette tombe ?
Bien que la sépulture soit en particulièrement mauvais état, il n'y a pas vraiment de doute concernant son occupant. Des fragments de jarre ont été retrouvés avec le nom du pharaon Thoutmôsis II ainsi que des inscriptions portant le nom de sa demi-sœur et de sa principale épouse, la reine Hatshepsut. Le tombeau de celle-ci est d'ailleurs situé juste à côté. Les poissons sauvages pourraient reconnaître les humains à leur tenue.
Les scientifiques ont mené une étude en Méditerranée et ils sont formels. Certains poissons sauvages pourraient différencier les humains en observant leurs vêtements. Ils se sont concentrés sur deux espèces bien précises, des sarces à tête noire et des oblades, sans aucune expérience préalable des humains qu'ils ont entraînés pendant 12 jours.
Mais en quoi consistait cet entraînement ?
Un scientifique a nourri ses poissons à chaque fois qu'il les suivait dans l'eau et au bout de quelques jours, un deuxième membre de l'équipe est entré dans la danse. Et résultat, lorsque les deux plongeurs sont habillés différemment, les poissons suivent naturellement leur entraîneur, mais dès que les vêtements sont identiques, plus aucune distinction n'est faite par les poissons entre les deux personnes. En somme, des mécanismes très simples, comme la reconnaissance des motifs ou des couleurs, semblent permettre aux poissons de nous distinguer les uns des autres. Et pour terminer ce flash, coup d'œil dans le rétroviseur, c'était il y a tout juste 56 ans, le 25 février 1969, la NASA lançait Mariner 6.
Et oui, et Mariner 6 du programme américain Mariner qui visait à étudier les planètes du système solaire. L'objectif de cette sixième sonde était de prendre des photographies de Mars. Elle survolera son hémisphère sud le 31 juillet 1969. C'était la deuxième fois de l'histoire qu'une sonde survolait la planète rouge. Un exploit qui est toutefois resté dans l'ombre puisque le grand public avait à ce moment-là les yeux rivés sur les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Et alors, qu'est-ce que Mariner 6 a appris aux scientifiques ?
Mariner 6 a permis d'analyser la composition de l'air martien et de capturer des images en gros plan de l'astre. Grâce à ces clichés, les scientifiques se sont rendus compte que la surface de Mars était aride et criblée de cratères, une déception alors qu'ils espéraient pouvoir y trouver de l'eau.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le 27 janvier dernier, nous commémorions les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Le traumatisme de la barbarie nazie a impacté toute une génération et s'est transmis à la génération suivante par des mécanismes psychologiques qui sont encore en cours d'étude aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer la dimension transgénérationnelle de ces traumatismes ? Comment les étudie-t-on et comment accompagner les personnes qui en sont victimes ?
Pour nous aider à mieux comprendre cela, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bérangère Guiry, neuropsychologue et membre de l'unité de recherche de l'INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine à l'Université de Caen. Bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer directement la question de la transmission des traumatismes, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est un trauma ?
Alors, un traumatisme, en fait, ça renvoie à une réponse émotionnelle d'une personne à une expérience douloureuse, une expérience pénible. Alors, ces expériences, ces événements traumatisants, ils sont la plupart du temps soudains, imprévisibles, et ils impliquent une menace sérieuse pour l'intégrité physique et semblent indépendants de la volonté de la personne. Donc on peut définir ce traumatisme de cette manière, et on va identifier plusieurs types de traumatismes. On peut retrouver un traumatisme plutôt individuel, tel que un accident de voiture par exemple. On va se retrouver exposé donc à cet événement. Il existe des traumatismes plutôt collectifs. Et là, l'exemple le plus flagrant aujourd'hui, ce sont les attentats, et notamment les attentats du 13 novembre. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'à Caen, on a la chance d'avoir mis en place un programme, le programme 13 novembre, qui vise à évaluer donc les conséquences des attentats sur les personnes exposées directement et indirectement. Donc, traumatisme individuel, traumatisme collectif, et puis on a aussi différentes formes consécutives en fait à la répétition du traumatisme. On peut avoir un traumatisme donc unique, tel que les attentats en fait, et puis on peut aussi avoir des traumatismes répétés. Et là, on peut prendre l'exemple des maltraitances, de l'inceste, des agressions multiples, notamment dans l'enfance. Enfin, on peut aussi distinguer la nature de l'exposition. En fait, les personnes peuvent être exposées directement au traumatisme. Là encore, hein, ça a été le cas dans les attentats. Et puis, on peut être exposé de manière plutôt indirecte. On peut aussi apprendre le décès d'un proche. On peut être confronté finalement à des personnes qui ont été exposées régulièrement à des événements traumatiques et même le soin. Donc là, ça renvoie aussi à tous les professionnels de santé qui prennent en charge ces personnes exposées au trauma. Donc vous voyez qu'en fait, le trauma, même si on peut en proposer une définition générale, il est extrêmement complexe et multiple. Donc ce trauma, il va impliquer en fait plusieurs modifications chez l'individu qui a été exposé. On connaît en fait différentes pathologies. La pathologie emblématique, en fait, ça reste le stress post-traumatique. On sait notamment que chez les enfants, un enfant sur deux va être exposé à un événement potentiellement traumatique. Lorsqu'on regarde la vie entière, on arrive à 20 à 30% d'exposition à des événements traumatiques. Donc c'est un élément qui est extrêmement important à prendre en compte. C'est vraiment une question de santé publique. Et là, en l'occurrence, en fait, concernant le stress post-traumatique, eh bien, on a plus de 20% de risque de développer cette pathologie lorsqu'on a été confronté à un événement traumatique. Alors, le stress post-traumatique, il renvoie à des critères bien précis de diagnostic. Et ça, on pourra en reparler, si vous le souhaitez, dans la suite de l'émission.
On reviendra en effet sur la question du stress post-traumatique, mais vous avez cité un certain nombre de différentes formes de traumatisme, et certains d'entre eux viennent à être donc transmis à des générations après qui n'ont pas forcément vécu le traumatisme. Comment se passe cette transmission? Comment on peut l'expliquer?
Alors, l'exposition à un traumatisme va en fait induire des modifications au sein de la famille. Une adaptation positive, mais aussi une adaptation parfois négative. Donc, dans certains cas, en fait, les parents peuvent développer des pathologies qui vont modifier, du coup, le fonctionnement familial. On a parlé du stress post-traumatique, mais on a d'autres pathologies, en fait, suite à ce trauma. On peut observer ce qu'on appelle, en psychologie, des troubles internalisés, plus de la dépression, de l'anxiété, ou même externalisés, des troubles du comportement. Et donc ça, vous imaginez bien que ça va modifier un peu le fonctionnement familial. Donc, selon que l'enfant est né avant les événements ou après les événements, on n'aura pas tout à fait la même forme de transmission. Si les enfants sont nés avant les événements, du coup, ils vont être présents au moment de l'exposition au traumatisme parental. Donc là, on pourra parler... ces enfants peuvent présenter un stress post-traumatique, même selon les critères de diagnostic des classifications internationales. Ils peuvent présenter d'autres pathologies, et, par exemple le deuil, donc ce qu'on appelle le trouble de deuil prolongé, mais ils peuvent aussi présenter ce qu'on appelle une traumatisation secondaire. Donc ils ne sont pas exposés directement aux événements, mais ils vont en fait développer des symptômes en lien donc avec l'exposition parentale. Cette exposition secondaire, on la retrouve aussi sous une autre forme chez les professionnels aussi de santé que j'abordais tout à l'heure, sous le terme de traumatisme vicariant. Peut-être que c'est quelque chose qui est plus connu finalement dans le public. Alors, cette traumatisation secondaire, elle peut même se manifester par des symptômes qui sont assez proches du stress post-traumatique. Et puis, il y a donc les enfants qui sont nés après les événements donc vécus par les parents. Et là, il y a en plus de la composante psychologique, il y a une composante génétique et surtout épigénétique qui est importante. Et il y a plusieurs travaux en fait qui ont été réalisés et qui se poursuivent pour essayer d'identifier les voies de signalisation qui sont impliquées et puis les gènes, donc la modification, l'expression de certains gènes dans la transmission du trauma, ce qu'on pourrait appeler finalement la mémoire biologique du traumatisme.
Donc le traumatisme s'inscrirait dans les gènes des personnes.
Alors ce traumatisme, oui, il peut être le traumatisme parental peut être transmis par le biais d'une modification de l'expression des gènes, de cette méthylation notamment, qui va toucher des gènes en particulier. Aujourd'hui, grosso modo, on en connaît deux, mais il y en a de plus en plus. Alors il faut être quand même extrêmement vigilant. Parce que lorsqu'on regarde en fait l'épigénome entier, eh bien on a très peu de modifications, mais il va falloir cibler des voies très précisément, des gènes très précisément, pour retrouver donc ces modifications. Donc limiter le nombre de comparaisons pour pouvoir augmenter la puissance statistique et observer donc de ces modifications. Donc c'est vraiment là aujourd'hui une voie de recherche qui est en pleine explosion de pouvoir poursuivre donc l'étude de cette mémoire biologique. Mais ces modifications biologiques, elles se limitent pas à l'épigénétique. En fait, il y a aussi d'autres manifestations, et notamment dans la transmission du stress. Et ce qu'on appelle les hormones du stress, vous avez peut-être entendu parler du cortisol, qui présente des anomalies qu'on peut retrouver chez certains enfants, donc de personnes exposées, anomalies tant dans une augmentation significative ou une diminution significative de cette sécrétion de cortisol chez les enfants. Alors juste un petit point terminologique avant de continuer. En fait, on parlait de transmission tout à l'heure, donc j'ai parlé de traumatisation secondaire. Transmission, vous l'avez évoqué, intergénérationnel. Donc on réservera ce terme lorsqu'on parle de la génération suivante, et puis transgénérationnel lorsqu'on va étendre aux autres générations, et notamment sur tous les travaux qui ont été réalisés auprès des survivants de l'Holocauste, tant d'un point de vue psychologique, il y a des modifications cognitives aussi, et puis biologiques, comme on vient de l'évoquer.
Et justement, ces modifications cognitives, en quoi elles consistent ?
Alors, il y a dans les familles des modifications qui peuvent être très générales du fait de l'impact finalement de l'exposition au sein de la famille, les modifications que ça va induire auprès des parents en termes de fonctionnement, l'apparition de symptômes particuliers, même de diagnostics, de pathologies particulières, ou tout simplement une adaptation, même positive, hein, à l'exposition du trauma. Donc, il y a finalement une transmission très générale du fait de cette adaptation. Ça a modifié le comportement parental. Le soin dès les premiers mois de vie, on va dire, auprès des enfants, jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Donc on va retrouver des modifications en termes cognitifs, par exemple, on peut observer des modifications attentionnelles, ça peut être des difficultés de concentration, selon aussi les pathologies, finalement, que vont développer les parents suite à l'exposition. Donc c'est très lié en premier, hein, évidemment, aux pathologies que les parents vont développer, évidemment, suite à cette exposition. Alors, il y a une transmission très générale due à cette adaptation, puis il y a une transmission plutôt spécifique due au traumatisme en lui-même. Et il y a certaines études qui montrent finalement qu'il existe une trace en mémoire de ce traumatisme, et notamment en termes cognitifs. Certains enfants, en fait, peuvent être plus sensibles à des informations en lien avec la nature même du traumatisme parental. Donc, il y a eu des travaux sur des vétérans, des enfants de vétérans, et lorsque on leur présentait des mots en rapport avec les campagnes de guerre, en fait, de déplacement de leurs parents, eh bien, on pouvait observer, du coup, des réactions finalement inhabituelles, et ce qu'on appelle dans notre jargon un peu un effet d'interférence qui pouvait être plus important chez ces enfants. De la même manière, on a observé aussi dans d'autres études sur des enfants issus de mouvements migratoires importants, eh bien un évitement par rapport à des informations en lien avec ces mouvements, donc la nature même de ces traumatismes. Et paradoxalement, ce sont pas forcément les enfants, là, pour le coup, dont les parents présentaient une pathologie particulière, en l'occurrence le trouble de stress post-traumatique, mais c'était surtout des enfants dont les parents ne présentaient pas de pathologie en particulier. Donc toute la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un mécanisme adaptatif ? En gros, j'évite ces informations parce qu'elles pourraient créer chez moi des symptômes ou des pensées, des états émotionnels particuliers. Ou est-ce que, à terme, finalement, donc quelques années plus tard, ce mécanisme finalement fragilise sur la durée et pourrait constituer un facteur de vulnérabilité au développement de pathologies plus tardives, quoi. Donc c'est tout l'enjeu en fait des travaux qu'on peut réaliser sur la transmission intergénérationnelle du traumatisme, pouvoir identifier donc à la fois la nature, les conséquences, les forces, les faiblesses dans le cadre de ce traumatisme.
Et est-ce que il y a différents degrés de transmission ? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourraient être plus vulnérables à un moment de leur vie ou je sais pas, dans cette transmission, est-ce qu'il y a différentes manière de vivre ce traumatisme, et certaines plus fortes et d'autres plus faibles, je sais pas si vous voyez où je veux en venir.
Alors, par rapport aux enfants ou par rapport aux parents ?
Par rapport aux enfants, par rapport à la personne à qui on transmet ce traumatisme.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, lorsque le trauma a été vécu avant, donc la naissance des enfants, il y a une composante biologique qui est un peu plus importante. En revanche, le fonctionnement familial va aussi intervenir dans cette transmission. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, plutôt que de périodes de vulnérabilité plus importantes, c'est plutôt en termes de fonctionnement. C'est-à-dire, on a identifié des facteurs, par exemple la communication au sein de la famille. Donc une communication plutôt silencieuse ou au contraire une communication qu'on appelle totalement libérée et sans filtre, eh bien, peuvent aussi créer des vulnérabilités. En revanche, lorsqu'on parle de communication plutôt modérée, donc c'est une divulgation modérée et adaptée à l'âge de l'enfant, mais aussi au contenu de ce qu'on transmet, eh bien là, du coup, on accompagne l'enfant et on limite. Donc, c'est surtout ces leviers, finalement, qu'on va pouvoir agir, et ce, de manière très précoce, dès l'exposition, donc auprès des enfants qui sont nés, qui étaient présents au moment de l'exposition parentale, et puis par la suite, ces leviers sur lesquels on va pouvoir agir très vite avec les enfants et surtout avec les familles.
Les traumatismes intergénérationnels se transmettent de parents à enfants, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, mais ils se transmettent aussi à d'autres personnes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, par exemple les soignants. Comment ça se passe exactement?
Alors, les soignants, ils peuvent être exposés donc directement, évidemment, à ces menaces, quand on parlait d'intégrité physique, donc une exposition donc à ces menaces, ils peuvent présenter aussi des pathologies particulières, et puis par ricochet, ouais, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée, ils peuvent présenter ce qu'on appelle un traumatisme vicariant. Donc à force d'être en contact avec ces personnes qui ont été exposées à des traumatismes multiples. On va observer aussi des symptômes, ça peut être des symptômes qui miment des troubles entre guillemets internalisés, voire même lorsque on travaille, certains professionnels peuvent présenter ce qu'on a appelé aussi une fatigue de compassion. Donc ça peut être des symptômes plutôt de type dépressif cette traumatisation secondaire ou ce traumatisme vicariant peut se manifester de cette manière-là. D'où l'importance d'être extrêmement vigilant à l'apparition de ce type de symptômes et puis de travailler aussi en équipe, de pouvoir débriefer, de pouvoir avancer comme ça avec un soutien et une interaction régulière avec d'autres professionnels pour limiter cet impact. Et puis, on sait aussi qu'il y a certains professionnels qui ne s'autorisent pas, en fait, à présenter des fragilités. Par exemple, si vous prenez la police ou ne serait-ce que les personnes qui sont intervenues, par exemple, sur les attentats, ça fait partie de leur travail. Donc, en ce sens, ils n'ont pas le droit, entre guillemets, d'être fragile, alors que c'est l'essence même de l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des éponges et il est important de pouvoir interagir, de pouvoir... Il y a une sensibilité, y compris chez ce type de professionnel, qu'il est important de prendre en compte.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure la différence entre un traumatisme intergénérationnel et transgénérationnel. Comment expliquer qu'un traumatisme peut soit se limiter à une seule génération ou alors dépasser ce cadre d'une seule génération et s'étendre sur le long terme? Est-ce qu'on a une explication sur ça, du fait qu'il perdure plus longtemps?
Alors, il y a la question aussi du fonctionnement familial. Comment, en fait, ce traumatisme a modifié le fonctionnement familial? Alors, évidemment, des traumatismes collectifs tels que des guerres, j'ai parlé tout à l'heure des survivants de l'Holocauste, ce sont des traumatismes qui sont majeurs. Ces traumatismes, ils ne se limitent pas à la famille. Il y a des commémorations, il y a en fait des rappels régulièrement de ces événements. Donc ça participe aussi, il y a la question du devoir de mémoire, mais ça participe aussi à cette transmission. Et donc, il y a des modifications au sein de la famille, et puis il y a aussi la partie biologique, la part biologique dont on parlait, et puis ces modifications physiologiques qui ont été mises en évidence justement sur ces cohortes d'enfants, d'ailleurs devenus adultes, de survivants de l'Holocauste. Et donc c'est toute l'équipe de Yehuda qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui a identifié notamment les deux gènes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc le traumatisme de masse, qui est un traumatisme qui est important, qui induit des modifications qui sont importantes au sein de la famille, on peut évidemment imaginer que ça va se transmettre davantage de génération en génération, de manière explicite, mais aussi de manière implicite.
Dans quelques instants, on continue de parler des traumatismes intergénérationnels avec vous, Bérangère Guiri, mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Là-bas de Yoa. A tout de suite dans C'est pas faux.
T'avais sonné l'alarme, moi j'ai pris 20 ans ferme. Maintenant je suis ni ton pote, ni ton amoureuse. C'est pas ta faute, j'avais plus envie d'être heureuse comme ça. Mais qu'allons-nous faire des trucs qui traînent dans la cuisine? Qu'allons-nous faire du voyage vers le Pacifique? Allons-nous faire des promesses que je dois tenir? Qu'allons-nous faire sans nous, mon amour? Attends-moi là-bas. Qu'allons-nous faire des trucs qui traînent dans la cuisine? Qu'allons-nous faire du voyage vers le Pacifique? Qu'allons-nous faire des promesses que je dois tenir? Qu'allons-nous faire sans nous, mon amour? Je sais que t'es pas loin, t'as pas quitté Paris. Ma solitude, tous les soirs je te dis bonne nuit. Sans savoir ce que tu portes, sans savoir qui tu vois. Même si c'est pour me haïr, s'te plaît, pense à moi. Je me sens comme un homme, je me sens comme un con. Ta colère s'additionne au nombre de mes pardons. J'ai jamais été bonne pour prendre des décisions. Donne-moi du pouvoir, j'en ferai un poison. Je te cherche dans les couloirs du métro quand je le prends. Je te cherche quand je pleure dans la nuit chez mes parents. Je te cherche quand je jouis sous les doigts de mes amants. Je te cherche quand j'écris, je te cherche partout tout le temps. Je te cherche dans les couloirs du métro quand je le prends. Je te cherche quand je pleure dans la nuit chez mes parents. Je te cherche quand je jouis sous les doigts de mes amants. Je te cherche quand j'écris, je te cherche partout tout le temps. J'ai voulu plaire au plus gros loser de la terre. Comme pour me prouver que j'ai encore du chemin à faire. Comme pour me prouver qu'en vrai le loser c'est moi. Comme pour te montrer qu'au fond tu regretterais pas. Protège les souvenirs que j'ai salis en partant. Protège les je t'aime, je porterai tes enfants. Protège mon cœur, tu sais qu'il n'appartient qu'à toi. Si tu le veux, protège ce qui reste de moi. Mais qu'allons-nous faire des trucs qui traînent dans la cuisine? Qu'allons-nous faire du voyage vers le Pacifique? Qu'allons-nous faire des promesses que je dois tenir? Qu'allons-nous faire sans nous, mon amour? Attends-moi là-bas. Qu'allons-nous faire des trucs qui traînent dans la cuisine? Qu'allons-nous faire du voyage vers le Pacifique? Qu'allons-nous faire des promesses que je dois tenir? Qu'allons-nous faire sans nous, mon amour? Attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas. Attends-moi là-bas.
C'était Là-bas de Yoa. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Bérangère Guiri pour parler des traumatismes intergénérationnels. Et on parlait tout à l'heure du stress post-traumatique, mais factuellement, quels sont les symptômes, si on peut parler de symptômes, d'une personne victime d'un traumatisme intergénérationnel?
Alors, si on s'intéresse aux enfants de ces parents qui ont été exposés, en fait, il y en a finalement assez peu. Il y a un faible pourcentage, malgré tout, hein, qui va développer des symptômes qui vont être identifiables ou des diagnostics particuliers, des diagnostics de pathologie psychologique particulière. La grande majorité fonctionnera en fait très bien. Alors, parmi ceux en fait qui peuvent développer certains symptômes, eh bien, chez les plus jeunes, par exemple, on peut observer des difficultés d'attachement. Difficultés d'attachement, on parlera notamment d'attachement insécure chez certains d'entre eux. On peut observer aussi des défauts de régulation émotionnelle. chez d'autres et qui peuvent amener à des pathologies telles que la pathologie borderline qu'on connaît bien. Et puis, d'un point de vue cognitif, donc on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir aussi à la fois des symptômes qui sont plutôt liés aux événements en eux-mêmes. Il y a même des cas décrits en fait d'enfants qui présentaient des intrusions qui portaient sur les événements vécus par leurs parents. Et puis il peut y avoir aussi des difficultés plus diffuses, notamment on a parlé de la régulation des émotions, des difficultés attentionnelles, et puis en plus des particularités biologiques dont on parlait tout à l'heure. Mais finalement, en fait, là, on parle beaucoup de faiblesses, mais il y a aussi des forces qui sont transmises. Donc, ces enfants, ils s'adaptent. On a aussi, par exemple, de la créativité qui peut être importante chez ces enfants. Et ça va s'exprimer aussi, cette transmission, par ce biais-là. Donc, c'est important de ne pas pointer que, finalement, des symptômes qui pourraient se transmettre. Surtout que ça se transmet chez une minorité d'enfants, mais aussi les forces qui se transmettent de parents à enfants, y compris de parents donc exposés à un trauma.
Et alors, comment on en est venu à identifier ce genre de traumatisme ?
La transmission intergénérationnelle, cette transmission... Alors, on s'est intéressé effectivement en majorité à la transmission sur des traumatismes collectifs. Je parlais des survivants de l'Holocauste tout à l'heure, et est-ce que ça laisse des traces ? Donc, du coup, il y a eu beaucoup de travaux dans ce domaine-là. Il y a eu aussi beaucoup de travaux chez les vétérans. Donc, à chaque fois, en fait, avec une approche sur des traumatismes de masse. Et puis, il y a des travaux aussi sur les victimes d'agressions, notamment chez les femmes qui sont aussi plus sensibles et à plus à risque de développer un stress post-traumatique suite à une agression interpersonnelle, des violences interpersonnelles, et quelles seront les conséquences sur leurs enfants. Donc, avec la problématique notamment, j'en parlais tout à l'heure, de l'attachement, des liens émotionnels qui pourraient être mis en place donc dès les premiers mois de vie. Et donc, finalement, la préoccupation derrière, c'est une préoccupation de soins et comment accompagner en fait ces parents qui ont été exposés à des traumas. Préoccupation de soins et puis préoccupation de recherche aussi. L'exemple des survivants de l'Holocauste, c'est vraiment caractéristique des recherches en biologie. Il y a eu aussi pas mal de travaux sur les retours en fait de campagnes donc militaires. Comment finalement un parent qui était parti sur une campagne, revient et intègre tous les traumatismes qu'il a vécu dans sa famille, que ce soit auprès de son compagnon ou sa compagne, mais aussi auprès de ses enfants. Et donc là aussi, la question qui se posait, c'est est-ce que finalement ces événements constituent des facteurs de vulnérabilité chez les enfants, en développement en fait de certaines fragilités. Alors ça peut même être, si l'enfant a des problèmes de régulation émotionnelle, il va y avoir des conséquences, notamment dans les apprentissages. Donc des enfants qui peuvent être pour lesquels l'école peut être plus difficile, les apprentissages peuvent être plus difficiles, on va essayer d'identifier l'origine de ces difficultés. Donc il y a vraiment une préoccupation d'accompagnement de ces enfants.
Et vous parlez d'accompagnement et de prise en charge. Comment on pourrait enrayer le cycle, dans le sens où comment on pourrait interrompre la transmission d'un traumatisme ? Est-ce que c'est quelque chose de possible ?
Alors, la transmission, finalement, c'est un phénomène qui est normal, cette transmission. Là où elle commence à poser problème, c'est lorsqu'elle induit des symptômes qui vont perturber la vie au quotidien. On ne peut pas l'interrompre totalement. Ce qu'on peut faire, c'est travailler avec la famille, travailler sur les relations, notamment entre les parents et les enfants, mais aussi sur le parent exposé en lui-même. C'est-à-dire que si lui est en souffrance, une prise en charge de ce parent va du coup avoir des conséquences sur les enfants et sur la transmission qu'il pourra en faire en fait de ces événements traumatiques. Donc c'est travailler sur le parent, travailler sur la famille, et puis ça de manière rapide, c'est-à-dire si là encore je reprends l'exemple des attentats, ça va être accompagner la personne qui a été exposée, mais accompagner la famille au sens large, y compris les enfants. Donc il y a des cellules d'urgence, il y a des dispositifs qui existent, et puis après ça peut être effectivement accompagner l'enfant au plus long terme. Mais les différents leviers sur lesquels on peut agir, c'est le fonctionnement familial au sens large, pour limiter finalement les fragilités que ça pourrait induire. Et ce phénomène de transmission, on ne peut pas l'annuler totalement. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel.
Vous en avez parlé un petit peu, mais comment on fait pour accompagner les personnes qui sont victimes justement de ces traumatismes intergénérationnels ?
Alors, accompagner, c'est un terme qui est c'est un peu paradoxal en fait. Traumatisme, ça a une connotation négative. La transmission du traumatisme, c'est pas forcément négatif. C'est ce dont on parlait tout de suite. Et donc, ce sont pas forcément elles sont victimes dans le sens où elles n'ont pas fait la démarche volontairement d'être enfant d'eux, mais on va les accompagner si elles présentent des difficultés, s'il y a une souffrance. Donc il y a des thérapies qui existent aussi. On sait que chez certains enfants, en fait, on va retrouver des pathologies particulières, comme le stress post-traumatique dont on a parlé, mais il y a d'autres pathologies. On peut parler aussi du trouble de deuil prolongé, c'est le fait de perdre un parent ou d'avoir aussi peut être extrêmement douloureux et induire des troubles sur du plus long terme. Donc on va proposer en fait des thérapies. Je pense à certains centres comme le centre régional du psychotraumatisme, donc de Normandie, qui se trouve à côté, là, Esquirol, qui accueille en fait à la fois des personnes exposées, mais dans le cadre du psychotrauma, en fait, toute personne qui présente une souffrance particulière et qui va leur proposer donc des prises en charge. On parle de prise en charge des thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, des thérapies par exposition prolongée au traumatisme. Donc il y a plusieurs types de thérapies qui sont validées d'un point de vue scientifique. Alors parmi tout un champ thérapeutique dont certaines thérapies sont largement moins bien validées, voire pas validées du tout. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vers des professionnels en fait qui s'appuient sur ces résultats scientifiques. Le CRP, c'est typiquement le cas. Et ce CRP, il a été notamment mis en place suite aux attentats et à un centre national, le CN2R, Centre National de Ressources et de Résilience, qui permet d'accompagner les professionnels, mais aussi toutes les victimes de ces traumas. Donc, on peut accompagner ces enfants, donc quand on parle, là, puisque ce qui nous concerne, c'est la transmission du traumatisme, ces enfants qui peuvent être en souffrance dans les différents établissements qui traitent finalement l'exposition à un traumatisme, y compris le traumatisme direct.
Et vous portez donc un projet, c'est le protocole de recherche CARE 1311, donc suite aux attentats de 2015, qui s'inscrit dans le programme de recherche 13 novembre, qui a été lancé, je l'ai dit, à la suite des attentats de 2015. En quoi consiste ce programme, et plus particulièrement le protocole CARE qui vient d'être lancé, qui est tout récent ?
Alors ce protocole, les inclusions ont débuté là, au mois de décembre, et pour une durée de 2 ans. Donc on travaille avec des familles, deux familles, des familles qui ont été exposées aux attentats, donc dont un parent a été exposé directement aux attentats, et qui avaient déjà des enfants à cet âge-là. Donc finalement, ce sont aujourd'hui des enfants qui ont au minimum une dizaine d'années jusqu'à 18 ans. Donc, on va travailler avec ces familles et qu'on va comparer à un autre groupe de familles, des familles qui n'ont pas été exposées à ces événements, qu'on appelle des familles contrôle. Et dans toutes ces études, en fait, on a toujours besoin d'un groupe de référence, un groupe de comparaison. Donc, on va accueillir sur site, donc sur Caen, mais aussi sur Paris. En fait, on réalise la même étude à Paris, à la Salpêtrière, à l'ICM, dans l'Institut du cerveau et de la moelle. Et donc, on va accueillir ces familles, la personne qui a été exposée, le parent exposé, et son ou ses enfants qui étaient déjà nés à cette période. Donc on va les accueillir sur site et on va leur proposer un protocole qui permet d'évaluer les différentes dimensions dont j'ai parlé finalement. Donc les dimensions psychologiques, les dimensions cognitives, les relations donc intrafamiliales, des évaluations physiologiques et notamment du cortisol dont on parlait tout à l'heure. Et puis on va y ajouter aussi des évaluations cérébrales, donc plutôt une IRM cérébrale qui est tout à fait non-invasive. Les enfants sont allongés dans l'IRM et puis on va mesurer l'activité en faisant des photographies de leur cerveau donc à plusieurs reprises. Et puis ça va nous permettre en fait de comprendre comment cette transmission est réalisée. Donc on va regarder le profil du parent, le profil de l'enfant, et puis on va mettre en lien ces deux profils. Alors on ne s'arrête pas, puisque j'ai beaucoup insisté jusqu'à maintenant sur la famille, donc on ne s'arrête pas à la personne exposée et ses enfants, mais on va aussi interroger l'autre parent. Donc là, c'est toute une partie qui se fait plutôt à distance. Donc l'autre parent, par des questionnaires, des entretiens. Et puis, avec le programme 13 novembre, on est très en lien avec les associations de victimes. Et ces associations, lorsqu'on les a rencontrées il y a plusieurs années maintenant, pour leur exposer le projet, avant d'écrire une ligne sur ce projet, eh bien, eux, ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'il en est, en fait, des oncles, des tantes, des cousins, cousines, qui se posent aussi pas mal de questions. Est-ce qu'il y a une forme de transmission aussi? Et donc, on inclut aussi la famille élargie. Donc, on va inclure le parent, donc frère ou sœur de la personne exposée, et puis cousin et cousine. Et tout ça aussi à distance, par des entretiens, par des questionnaires, donc auprès de cette famille élargie. Donc c'est tout l'enjeu en fait de pouvoir comprendre la transmission, parce que on connaît finalement assez peu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur une dimension. Tout à l'heure je vous parlais de la psychologie, voilà comment ça se transmet d'un point de vue psychologique, ou une autre question, comment ça se transmet d'un point de vue épigénétique. Donc là on n'a pas cet élément épigénétique dans ce volet de CARE, puisque ce sont des enfants qui sont nés avant les événements. Mais on espère pouvoir proposer en fait un second volet là dans les années qui viennent auprès des enfants qui sont nés après les événements, dans lequel on intégrera cette dimension épigénétique. Donc les études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, elles s'intéressent à une dimension, voire deux dans le meilleur des cas. Là, c'est une étude qui est extrêmement originale parce qu'elle va porter sur plusieurs dimensions. Et elle va permettre de croiser ces dimensions et de voir finalement même la nature aussi de l'événement, donc en l'occurrence les attentats, comment ça vient impacter finalement le profil psychologique, comment ça vient impacter le profil cognitif, est-ce que ces enfants sont plus évitants parce qu'en même temps certains ont plus de symptômes anxieux par exemple, et on va pouvoir comme ça créer des profils particuliers d'enfants. Parce que là, on a la chance en fait de pouvoir accueillir là, dans nos effectifs, on a 120 enfants de personnes exposées qui vont être accueillis sur les sites de Caen. Donc c'est Cicéron pour l'imagerie cérébrale, c'est le pôle de formation recherche et santé pour les évaluations cognitives et puis psychologiques. Et puis donc le site de Paris. Donc 120 enfants exposés. Et comparé à 120 enfants non exposés et leurs familles.
Et comment vous en êtes venu à vouloir ciblé la question des attentats de 2015. Pourquoi vous êtes concentré en particulier sur cet événement-là et les conséquences pour les proches des victimes ?
Alors, il y a deux choses, il y a deux origines. La première origine, c'est le programme 13 novembre, donc qui est coordonné par Denis Péchanski, qui est historien, et puis Francis Eustache, qui est neuropsychologue, et qui était donc à l'époque directeur de l'unité de recherche dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, c'est Hervé Platel, donc qui en est le directeur. Mais donc ils ont mis en place ce programme. On en est aujourd'hui à la troisième phase. On s'est posé la question très rapidement des enfants. Quid des enfants de ces personnes qui ont été exposées ? Il y a beaucoup de travaux, ça c'est donc un élément qui nous a amené à proposer CARE. Le deuxième élément, c'est dans la littérature, on a beaucoup de travaux sur l'impact des traumatismes de masse. Là, mais surtout des traumatismes qui sont répétés. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas des traumatismes répétés, à l'exception de quelques personnes, malheureusement, qui ont pu revivre d'autres événements de ce type. Mais dans la grande majorité, en fait, ils n'ont vécu, heureusement, qu'un seul attentat. Et comment un traumatisme unique va se transmettre de génération en génération ? Donc c'est une question, finalement, qui est originale et qui est assez peu étudié dans la littérature.
Et alors, quelles sont les prochaines étapes de ces recherches ?
Alors aujourd'hui, donc on inclut les participants. C'est pourquoi en fait, s'il y a des familles qui nous écoutent et des adolescents qui nous écoutent et qui veulent participer, on sera ravis de les accueillir. D'ailleurs, on a un mail, care1311@unican.fr, ça doit être à peu près ça l'adresse mail. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, mais vous retrouverez l'adresse mail sur les réseaux sans problème, même sur le site de l'unité. Donc on inclut actuellement les participants, et puis dans un second temps, donc on va traiter les données et on va comme ça établir ces différents profils, donc individuels, mais aussi en dyades, donc au sein de la famille, comment on peut mettre en relation le profil du parent avec le profil de l'enfant. Et puis là encore, ce que je disais, c'est qu'on a des évaluations sur la nature même du traumatisme par rapport aux attentats. Est-ce que le type de trauma que sont les attentats induit un comportement particulier ? Et notamment, donc, on s'intéresse à l'évitement par rapport aux éléments qu'on pourrait rappeler. Alors, ce sont des études où, en fait, on ne travaille jamais directement sur le traumatisme. C'est-à-dire que ce sont des études où on ne présentera jamais des photos, des lieux où ont lieu les attentats. On travaille sur les conséquences de l'exposition.
Merci beaucoup Bérangère Guéry d'être venue à notre micro. On le rappelle, vous êtes neuropsychologue et membre de l'unité de recherche de l'INSERM Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine à l'Université de Caen. Bonne journée à vous.
Merci à vous, merci pour votre accueil.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Ce mercredi 26 février de 14h à 16h, le Dôme vous invite pour l'atelier Nous sommes Orne. Venez partager vos témoignages, photos, archives et anecdotes sur le bassin versant de l'Orne. Ce sera l'occasion de découvrir la plateforme Histoire de Nature et de contribuer à sa collection muséale participative qui vise à collecter des traces des changements environnementaux en cours sur notre territoire. Alors venez participer, c'est gratuit et ouvert à tous dès 15 ans.
L'exposition Portrait de Serial Trieur débute ce 26 février à la médiathèque de Jean Marot à Mathieu. À travers un ensemble de photographies mettant en scène le tri des biodéchets, cette exposition vise à encourager aux bonnes pratiques. Et à cette occasion, un atelier animation et papote autour du compostage est organisé avec un maître composteur. Rendez-vous donc mercredi 26 février à la médiathèque Jean Marot de 15h à 17h. L'entrée est libre et gratuite à partir de 6 ans.
Et enfin, lundi 3 mars, le séminaire de la culture numérique est de retour pour une conférence Esprit critique versus désinformation. Ça vous sera présenté par Virginie Bagneux, qui est enseignante-chercheuse en psychologie sociale à l'université et membre de l'Observatoire Zététique. L'entrée est gratuite, alors on se retrouve lundi 16h à l'amphithéâtre de l'IUT DIF sur le campus 3. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.